Alors, après les Jeux Olympiques qui se sont terminés le 11 août, la France et Paris accueillent maintenant les Jeux Paralympiques. Ils ont commencé mercredi dernier et ils se terminent le 8 septembre. L'histoire de ces Jeux remonte à 1948. Un médecin voulait trouver un moyen de stimuler les anciens combattants des deux guerres mondiales qui étaient restés handicapés moteurs. Les premiers Jeux paralympiques ont eu lieu en 1952, avec des personnes en chaise roulante. Et puis ensuite, il y a eu des personnes avec un handicap visuel. Il faut attendre 1988 pour qu'ils se déroulent sur les mêmes sites que les Jeux olympiques. Et en 1996, des personnes avec un handicap mental peuvent participer. Ces Jeux ont gagné petit à petit en popularité et en médiatisation et ils me donnent l'occasion de me pencher sur le handicap. C'est un sujet dont on parle peu. La France n'est pas très en avance pour les aménagements des infrastructures pour les personnes avec un handicap. Il y a des handicaps visibles, par exemple les personnes qui sont paralysées ou qui souffrent du manque d'un membre, qui sont en fauteuil roulant. Les aveugles, souvent, on repère qu'ils sont aveugles parce qu'ils ont une canne blanche pour se déplacer, mais il y a aussi beaucoup de handicaps invisibles. On peut penser aux personnes sourdes, par exemple. Et l'adaptation de l'environnement est lente à se faire. Alors ici, on a de la chance. Quand je suis arrivée dans ce bâtiment il y a 6 ans maintenant, eh bien, avec l'ascenseur, on a l'accessibilité aux personnes qui ont du mal à se déplacer. Et puis, on a aussi deux casques, pour les personnes qui sont malentendantes. On est sensibilisé au handicap. On va laisser les sonorités du monde. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Le handicap, quand il se voit, en fait, ça atteint notre image corporelle. Et un corps qui est déformé ou qui n'est pas complet nous fait peur. Et l'apôtre Paul, qui était malade, eh bien, le dit dans sa lettre aux Galates, il était malade, cela se voyait beaucoup. Il était un peu répugnant, il y a un mot de dégoût aussi. Et cette visibilité du coup du regard, parce que c'est par le regard qu'on s'en rend compte, eh bien, ça nous interroge. Et ce récit de la guérison, il va y avoir un jeu de regard justement dans ce récit. Qu'est-ce qu'il y a dans le regard que je porte sur l'autre? Comment je le regarde? Alors les disciples Pierre et Jean vont relayer la mission de Jésus-Christ. On est dans une période des Actes où la Pentecôte vient d'arriver, ils viennent de recevoir l'Esprit Saint et ils deviennent de disciples, c'est-à-dire ceux qui suivent, ils deviennent des envoyés, des apôtres, des témoins. Pierre et Jean sont toujours à Jérusalem, ils vont prier au temple. Le temple était formé de plusieurs cours, donc le temple juif, on est bien d'accord. On est là pour... c'était des personnes qui étaient juives, Pierre et Jean. Au départ, il faut bien s'en souvenir, Jésus était juif. Donc là, le temple comportait plusieurs cours. Et dans Lévitique, vous avez entendu, les personnes infirmes et handicapées n'avaient pas le droit d'entrer dans les différentes cours. Les femmes non plus, elles ne pouvaient pas aller dans les mêmes cours que les hommes. Et là, l'infirme dont on dit qu'il est à la belle porte c'était le nom de l'entrée, il restait sur le seuil. Le texte du Lévitique déclare que l'infirme est considéré comme impur, il ne peut pas devenir prêtre, il ne doit pas s'avancer jusqu'à l'autel pour ne pas profaner mon sanctuaire et son contenu, relaye Moïse. Et puis, on comprend aussi en lisant les textes bibliques que le handicap, la maladie, on pense à la lèpre aussi, c'était souvent le résultat d'un péché de la personne, ou bien des générations qui sont précédentes, qui sont au-dessus. On s'en souvient quand on lit l'histoire de l'aveugle né dans l'évangile de Jean, les disciples demandent « Est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents ?» Et Jésus dit « Personne n'a péché. » C'est pas, il faut placer ça sur un autre registre. Il va apporter un souffle nouveau pour balayer toutes ces manières de penser. Le handicap est simplement une donnée de l'existence. C'est ainsi. Alors, le thème de l'injustice est une étape par laquelle passent beaucoup de personnes avec un handicap. Pourquoi moi ? Et c'est souvent après avoir accepté leurs différences qu'elles peuvent aller de l'avant. C'est ce que j'ai lu par exemple dans le témoignage qu'on trouve dans les petits Nouveaux Testaments édités à l'occasion des Jeux. Donc ça, c'est des petits Nouveaux Testaments, c'est une version français courant. Et au milieu, vous avez des témoignages de différents sportifs actuels ou qui ont passé la main. Ils racontent leur histoire, ils racontent leur foi. Des petits Nouveaux Testaments comme ça, on en a à la fin, vous pourrez en prendre. Donc j'ai tiré quelques témoignages de ce petit livre, de ce Nouveau Testament. Un monsieur qui s'appelle Diane Buiss, d'Afrique du Sud, a une infirmité motrice cérébrale, c'est-à-dire qu'il ne peut plus bouger ses membres. Donc comme sport, il fait du parasprint et du parasaut en longueur. Et il se demandait, pourquoi ai-je ce handicap, mon Dieu ? Lui était croyant. L'histoire de l'aveugle-né dont je viens de parler l'a inspiré et il est devenu un témoin. À travers mon handicap et grâce à mon parcours sportif, Dieu m'a façonné pour devenir une meilleure personne et un disciple du Christ, plus humble. Alors, on a vu en effet dans cette histoire de guérison, il y a tout un jeu de regard. Comment est-ce que je regarde ? Avec de la curiosité, avec du dégoût, avec de la bienveillance ? Quand j'étais petite, eh bien, on me disait de ne pas fixer du regard une personne avec un handicap, parce que cela pouvait être gênant pour elle. Mais un sourire peut éclairer mon regard. Ce n'est pas une moquerie si les personnes sentent que cela vient du cœur. L'homme voit Pierre et Jean passer la porte. Il leur demande de l'argent, c'est de cela dont il vit. La solidarité de certaines personnes qui ne sont pas nommées, mais forcément il y a un cercle autour de lui, les gens le posent à cette place, à l'entrée du temple. C'est la seule façon pour lui d'assurer sa subsistance, c'est une façon universelle qu'on connaît malheureusement encore beaucoup aujourd'hui. Donc l'homme voit Pierre et Jean passer et Pierre lui fait une réponse étonnante. Regarde-nous. Il attire son attention. Lui, le mendiant, il est assis par terre, il est donc au niveau des pieds des gens. Pierre humanise la relation qui, d'habitude, ne passe que par quelques petites pièces. Regarde-nous, regarde plus haut, élève ton regard. Pierre va déplacer cette demande d'argent. Il va aller plus profond, il va aller à la source du handicap. S'il lui donne de l'argent, il ne fait que combler le besoin d'un jour, ce qui est déjà très important. Mais son handicap exclut cet homme de toute la vie sociale et religieuse. Il n'est qu'un objet qu'on pose à la porte du temple. Il n'a pas le droit de venir adorer Dieu. Pierre déplace la question en lui disant qu'il n'a pas d'argent ni d'or. Pierre et Jean voient plus loin que la réalité humaine, car ils ont été les témoins d'une puissance qui les a bouleversés. Ils ont été les témoins de Jésus qui a été relevé de la mort. Leur regard s'est élevé plus haut que la mort. Alors les apôtres transmettent cette puissance qui ne vient pas d'eux, mais du Dieu de Jésus-Christ. De l'or ou de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, le Nazoréen, marche. Pierre prend la main de l'homme qui est à terre et il le lève. Le mot grec qui est écrit là, c'est egeirene. C'est le même mot que le relèvement de la résurrection. Ce verbe est cité une autre fois dans le texte quand on dit « il fut debout ». On nous dit que les pieds et les chevilles de l'homme s'affermissent. J'aime bien ce détail physique. Ensuite, cet homme bondit et saute. Le texte dit « d'un bond, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant, louant Dieu. » La parole de Pierre et son geste On guérit cet homme dans la droite ligne des guérisons de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Ce récit montre en effet que l'autorité de Jésus est sur Pierre, mais on passe d'une demande d'argent à une réponse qui libère la vie entière. Non seulement cet homme est guéri dans son corps, mais il est réintégré dans la société vivante et priante. Son premier geste est d'entrer dans le temple et de louer Dieu. L'extraordinaire de Dieu l'a touché et a bouleversé sa vie, et il le fait savoir. Alors Pierre et Jean sont deux disciples qui vont continuer l'œuvre de libération de Jésus, même s'ils n'auront pas le même parcours. La résurrection de Jésus, son relèvement, donne la promesse que chacun et chacune est appelé à se relever de tout ce qui a tendance à nous attirer vers le bas, vers la mort, vers la souffrance, vers les difficultés. Tout ce qui nous emprisonne ici et maintenant, eh bien Jésus peut nous en relever ici et maintenant, avant de ressusciter à notre mort, après notre mort. La puissance de vie est donnée aujourd'hui pour vivre pleinement, malgré les maladies, malgré les handicaps visibles ou invisibles. Alors, c'est ce qui me frappe quand je vois tous ces athlètes paralympiques. Le sport leur a permis de se relever, mais pas seulement. Ils ont eu besoin de la solidarité de leur entourage, des soignants. Et ça, c'est une chose qu'on apprend quand on est dépendant, c'est qu'on apprend à recevoir des autres. C'est difficile de recevoir et de ne pas se dire « je suis capable de faire tout seul ». Eux, ils ont appris à recevoir de l'aide des autres. Et c'est important parce que d'autres leur fassent confiance, parce que souvent la société les rejette. Souvent, on ne sait pas trop comment faire devant une personne avec un handicap. Une femme de la fondation John Bost, donc la fondation John Bost accueille justement des personnes avec un handicap mental. Eh bien, il y a eu un petit livre qui s'appelait « Comme elle est belle » et il parlait de la vie. Et il y a des témoignages aussi dans ce livre et j'en ai pris un. Et elle disait, cette femme, « Être redressée, c'est pouvoir de nouveau croiser un regard. » Donc oui, on peut regarder les personnes avec bienveillance. J'ai déjà parlé des aumôniers présents au village olympique et ils ont fait le parallèle entre le sport et la foi, comme l'épanouissement, comme le dépassement de soi, l'endurance, le courage. Mais l'un d'eux disait « Le sport ne répondra jamais à la question du sens de la vie. » Certains athlètes ont reçu la foi et cela les a évidemment aidés à dépasser les difficultés, à accepter que leur vie n'est pas réduite aux succès ou aux échecs qui peuvent leur arriver. Alors un dernier témoignage de Daniel Dias, qui est un nageur brésilien, né sans main et avec un seul pied. Et lui, il dit « Dieu nous voit entièrement, il voit ce qui est à l'intérieur, notre cœur. C'est grâce à cela que je me sens libre et non infirme. » Alors, c'est sans doute à nous d'apprendre de ces personnes. C'est à nous de nous mettre à leur écoute. Ils nous permettront de devenir plus humains, d'être en communion de cœur et d'esprit avec eux, de voir où est l'essentiel. En tout cas, pour ma part, c'est en étant à l'écoute d'une amie handicapée que j'ai pu voir la personne avant le handicap. Oui, nous pouvons être des témoins du regard que Dieu leur porte. Regard de respect, de considération. Et ces champions vont nous donner beaucoup de joie encore cette semaine. Je souhaite qu'ils nous permettent d'élever notre propre regard. Amen.